matin, Julien Pierce.
Facebook s'associe à la recherche publique pour lutter contre le coronavirus, un partage de données inédites dont l'objectif est de permettre d'anticiper une seconde vague de Covid-19. Pour en parler, Julien, votre invité, Jamal Atif, coordinateur de la modélisation du programme Face au virus et professeur au sein de l'université Paris Sciences et Lettres.
Bonjour Jamal Atif.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Expliquez-nous, quelles données Facebook vous a-t-il fournies et surtout, qu'est-ce que vous en faites ?
On travaille dans le but d'aider les décideurs à mieux appréhender la pandémie, à mieux définir des politiques publiques qui puissent nous aider dans cette situation difficile. Alors, nous sommes des spécialistes en sciences des données, en intelligence artificielle, et donc on sait travailler avec des données, et notamment des données de mobilité, parce que la nature même de la pandémie, c'est l'infection vient au contact quand les gens se déplacent. Et donc du coup, parmi ces données de mobilité, il y a les données de Facebook. On en a d'autres. Alors, pour répondre à votre première question, c'est quoi ces données Facebook? Ce sont des données de mobilité des personnes, donc de ceux qui utilisent le réseau social. Donc, quand, par exemple, vous avez l'application sur votre téléphone portable, ces données-là sont enregistrées. Alors, je tiens à dire et à préciser que nous n'avons pas accès aux données individuelles. Ce sont des données agrégées, soit dans le temps et dans l'espace. Donc, en aucun cas, on ne peut réidentifier les individus. Mais ces données-là nous renseignent un petit peu sur la nature de la pandémie, comment elle se propage. Et notre but, c'est d'expliquer la nature de cette pandémie et surtout de prédire ce qui va se passer.
Prédire nos déplacements et donc la circulation du virus, c'est ça ?
Exactement. C'est exactement ça. Alors, je ne crois pas que le but, c'est de savoir si une personne a été faire des courses ou de savoir de façon si fine ce qu'elle fait, mais ça nous renseigne sur le déplacement des individus.
Ces données de déplacement, j'imagine que vous les croisez avec d'autres données.
Alors effectivement, l'idée d'avoir ces données, c'est de nourrir des modèles. Et donc, quand on dit modèle, il faut croiser ces données-là avec des données sanitaires, des données qui viennent, par exemple, le nombre de personnes en hospitalisation, tout ce qui peut remonter des hôpitaux. Nous, on s'en sert pour construire nos modèles, effectivement.
Donc, une fois que vous avez croisé ces données de déplacement et avec celles des hospitalisations, par exemple, vous êtes capable de dire aux autorités le virus va être particulièrement actif dans tel ou tel quartier la semaine prochaine ?
Alors, c'est notre souhait, effectivement. Donc, on travaille sur des modèles qui peuvent répondre à ce type de questions, effectivement. C'est toute l'essence de notre travail. Donc, effectivement, c'est de construire des modèles qui permettent de prédire à des échelles temporelles plutôt resserrées. Donc nous, on se dit ça par rapport à d'autres travaux qui essayent de prédire l'évolution de la pandémie à l'échelle de mois. Nous, on est un petit peu prudent. On essaye de prédire ça à l'échelle de la semaine ou des deux semaines.
Du coup, c'est quoi vos prédictions pour les deux semaines à venir ?
La bonne nouvelle, c'est que c'est très calme, effectivement, en France. Tous les indicateurs le disent. Pour l'instant, on ne prédit pas de redémarrage de la pandémie. Donc, on est plutôt dans un régime qui est descendant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, parce que l'objectif, on va dire, à terme, c'est de pouvoir prédire l'arrivée d'une deuxième vague, voire d'une nouvelle épidémie, c'est ça ?
Exactement. Nous, on s'est abstenu à publier des indicateurs pendant le confinement parce que on vivait un moment exceptionnel et comme vous le savez, les modèles, ils ont besoin de données historiques pour pouvoir prédire. Or, on était dans un contexte qui n'était pas, entre guillemets, normal. C'est là, en fait, où le travail commence. C'est pendant cette période de confinement qui va être un peu longue, malheureusement. Et l'idée, c'est continuer ce travail de surveillance. Donc, on nourrit les modèles avec les données sanitaires, les données de mobilité quotidiennement pour essayer de voir des signaux très précoces sur un redémarrage éventuel de la pandémie.
Vous avez analysé nos déplacements de ces derniers mois. Est-ce que nous autres Français avons bien respecté le confinement ?
Oui, donc ça on peut le dire avec grande certitude. Il y a les données Facebook le disent très bien, mais d'autres études le confirment. Les Français ont globalement très bien respecté le confinement, effectivement.
Quels sont les facteurs aggravants de cette épidémie ? Qu'est-ce qui favorise sa diffusion au regard de toutes les données que vous avez interprétées ? Est-ce qu'il s'agit des déplacements de population ou de la densité de la population ? Ou les deux ?
Alors c'est une excellente question et c'est une question qui nous occupe en ce moment. D'ailleurs, c'est une question qui nous a été posée d'une personne qui fait partie des cellules de crise en fait, qui renseigne directement les décideurs. Et effectivement, pour l'instant, on essaye de voir est-ce que c'est la mobilité qui influe le plus sur la propagation forte de la pandémie ou la densité. Je crois que les premières conclusions disent que c'est la densité, mais là encore, il faut faire très attention. Donc la réponse n'est jamais définitive. Effectivement, quand on est en début de la pandémie où elle est très active, là, la mobilité, à mon sens, elle va beaucoup jouer. Par contre, une fois qu'elle est installée, la densité va un peu plus jouer que la mobilité. Donc j'ai envie de dire que c'est les deux facteurs, mais là encore, c'est une question sur laquelle nous planchons en ce moment, et donc on a des rendez-vous presque quotidiens, on travaille un peu avec nos équations, et on essaie de répondre de la façon la plus convaincante à cette question.
Est-ce que vous savez pourquoi Facebook, entre autres, partage avec vous leurs données? Est-ce qu'ils essayent de s'acheter une respectabilité?
Alors je ne peux pas répondre à la place de Facebook, mais ne soyons pas naïfs. Cela étant, Facebook est un des partenaires d'un institut de recherche en intelligence artificielle à Paris qui s'appelle Prairie. Donc moi, je suis directeur scientifique adjoint de cet institut. Et le but de cet institut, c'est que ces GAFAM, avec des acteurs français, puissent travailler avec des chercheurs pour faire avancer la science en intelligence artificielle. Je trouve que par cette connexité-là, ils nous ont proposé d'avoir accès à ces données-là. Donc, c'est un programme qui s'appelle Data for Good. Alors, il n'a pas été déployé que pour le Covid-19. C'est des choses qu'ils ont déjà déployées pour suivre d'autres catastrophes naturelles. Et il se trouve que, dans le cadre de ce programme-là, ils ont mis à disposition d'autres données qui sont plus orientées pour le suivi de la pandémie.
Merci beaucoup, Jamal Latif, d'avoir répondu à mes questions. Votre travail, en tout cas, a l'air passionnant. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la modélisation du programme Face au virus, qui analyse, entre autres, les données de déplacement des utilisateurs de Facebook pour prédire l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France. Encore merci et à très bientôt sur Europe 1.
Merci pour votre invitation. Au revoir.